sommes vendredi le 11 novembre et je suis très heureuse de vous accueillir sur Canal M. C'est Clotilde Sey qui vous parle et qui vous présente cette émission Le National. Si vous ne le connaissez pas encore, eh bien sachez qu'il s'agit pour nous de réunir pour vous des extraits, des segments d'émissions que vous auriez peut-être manqué cette semaine sur nos ondes, à moins que vous ayez même envie de les réentendre. Alors pour commencer, une femme vraiment fantastique. Elle a fait partie de l'émission Les Parts Actualités et elle a aussi été l'invitée de Benoît Racette dans le cadre d'Accès Libre présenté sur nos ondes, je vous le rappelle, le mardi à 12h et en reprise à 17h. Cette femme s'appelle Diane Bergeron. Elle est directrice générale, relations stratégiques et mobilisation à l'INCa. Eh bien, cette femme, elle va courir 78 km en 4 jours, cette femme non-voyante, pour financer l'achat de lecteurs braille orbite dans une région du Rwanda où malheureusement les enfants n'ont seulement accès à la lecture que pour 1% d'entre eux.
Courir pour rendre la lecture accessible. C'est ce que fera Diane Bergeron, directrice générale relations stratégiques et mobilisation pour l'organisme INCa. Bonjour Diane Bergeron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pourquoi vous avez décidé de courir 78 km en 4 jours en janvier prochain?
Pour moi, c'est très important que les enfants qui sont aveugles puissent avoir les livres en braille. Mm-hmm. Et le Orbit, c'est ta machine, puis et le braille, et les enfants en Afrique, en Rwanda.
Au Rwanda, oui.
Ces enfants n'ont pas la chance d'avoir une machine comme ça parce que c'est trop cher.
Ouais.
Alors, pour moi, je veux courir pour avoir assez de support, les donne pour ça, pour okay. envoyer les machines des Orbit à l'école en Rwanda pour les enfants aveugles.
Excellent. On va reparler de cette campagne qui est super importante, mais si je peux me permettre, je vais m'attarder un peu à vous parce que vous êtes une personne très engagée dans votre communauté. On se rend compte que vous êtes active depuis fort longtemps et vous vous adonnez de plus en plus au sport. On remarque ça dans les dernières années. Est-ce que vous manquiez de défis dans votre vie pour faire du sport comme ça?
Oui, je fais beaucoup de sport.
Oui.
Et je fais mon sport favori, c'est le triathlon.
Oui, exactement.
Oui, j'ai fait l'année passée, j'ai essayé de faire un Ironman. Et j'ai pas complété totalement, j'ai pas fini, mais j'ai à peu près là. Alors, je vais essayer encore le août l'année prochaine.
OK.
Je vais faire le Ironman Mont-Tremblant à Québec.
Ah, quand même. Bon, ben, on vous souhaite la meilleure des chances, mais revenons peut-être à cette course que vous faites en janvier. Il faut savoir que Orbit 200, qui est le nouvel afficheur braille abordable, dont votre organisme est le distributeur officiel au Canada, là, est un peu la solution pour aider la lecture. J'aimerais ça que vous nous expliquiez c'est quoi le Orbit 200 ou qu'est-ce qu'il fait?
C'est une machine qui fait le braille sur votre ordinateur.
Okay.
Vous attachez à l'ordinateur, puis c'est comme les personnes qui est voyant, tu vois sur ton ordinateur tous les mots dans le livre, mais pour okay. les personnes qui sont aveugles, ils ne voient pas. Alors, cette machine fait en braille.
OK. Donc, c'est la machine qui permet de transformer les livres qu'on aurait, par exemple, mis dans l'ordinateur en braille. Et
oui,
donc, votre organisme est-il le seul distributeur au Canada pour cette nouvelle invention-là?
Oui, c'est ça. Pour,
okay.
Pour cette machine, c'est INCA seulement.
OK. Rappelez peut-être aux gens à quel point vous avez contribué au développement de Orbit 200. Racontez-nous ce que vous avez fait pour aider à développer cela.
INCA est là à le commencement de développer le Orbit.
OK.
Il y a 10 organisations dans le monde. INCA et ARN, des organisations. Et puis, on a mettri un groupe ensemble. Il y a des personnes qui étaient aveugles. Puis, ils donnaient leurs opinions et essayaient avec le contrôle du produit.
Okay.
Alors, pour moi, je suis là parce que moi, je suis aveugle moi-même et je lisais le braille.
Donc, vous lisez le braille, mais vous l'avez appris un peu plus tard. Hein. Vous avez déjà écrit quelque part que vous utilisiez le braille un peu moins que le livre audio, hein, comme on propose ici. Vous savez que à Vues et Voix, tout juste à côté, on distribue des livres audio. Vous saviez ça?
Oh non, je ne connais pas.
Ah oui?
Parce que moi, j'habite en Ontario.
OK. Mais en fait, ça existe au Québec et donc, je sais que vous aimez beaucoup les livres audio. Mais revenons peut-être à votre campagne. Vous courez pour aider les enfants rwandais à avoir accès à Orbite 200, pour lequel vous avez beaucoup collaboré, contribué. Parlez-nous peut-être de la situation des enfants aveugles au Rwanda.
Cet enfant-là est dans une position qui n'est pas bien. Il y a moins que 10% des enfants aveugles qui habitent en Afrique qui a la chance d'aller à l'école. Moins de 10%, oui.
OK, parfait.
Alors, aussi que les livres en braille ou des livres qui sont accessibles par les personnes aveugles dans le monde, il y a moins que 7% des livres qui sont accessibles. Alors, en Afrique, ça a changé que moins que 1%.
Ah oui, donc 1% de la population d'Afrique, notamment au Rwanda, a accès aux livres accessibles. Donc, c'est pour ça que vous courez pour que des Rwandais aient accès à Orbite 200, qui peut lire et le transformer en braille. Alors, on vous suit, pour votre course en janvier. Pour vous aider, on peut aller sur inca.ca et repérer la rubrique « Encourager Diane ». Alors, merci, Mme Bergeron.
Merci beaucoup.
Bonne course.
Merci.
Voilà, Diane Bergeron. Une femme définitivement très, très inspirante qui va courir, je vous le rappelle, 78 km en 4 jours pour financer l'achat de lecteurs braille Orbite. Alors, en cette semaine, des vétérans, la même émission, Accès libre, se soucie du retour au travail des anciens combattants. On parle du retour à l'emploi, bien sûr, en situation de handicap, avec Faith McIntyre, directrice générale de la division de la politique et de la recherche au ministère des Anciens Combattants du Canada. Ouvrez bien vos oreilles, vous allez apprendre plein de choses.
Les anciens combattants peuvent revenir de mission avec toutes sortes de blessures. On pense évidemment à celles qui handicapent physiquement et aussi à ces chocs post-traumatiques. Mais le retour sur le marché du travail, ou disons la réintégration dans le monde civil, est souvent un défi de tous les instants pour ces personnes. Et c'est pour cette raison qu'on a avec nous Mme Faith McIntyre, directrice générale de la division de la politique et de la recherche au ministère des Anciens Combattants, qui propose des programmes pour soutenir ces personnes. Bonjour Mme McIntyre.
Bonjour, Monsieur Rassette.
Merci d'être avec nous. Je vous demanderai d'emblée, quelles sont les situations du handicap les plus fréquentes avec lesquelles les anciens combattants doivent vivre?
Oui, d'accord. C'est certain qu'il y a une variété de conditions.
Mm-hmm.
Les affections les plus communes mm-hmm. incluent des troubles de l'audition
okay.
et des défis avec des capacités auditives.
Oui.
Qui est suivi par des maladies lombaires, l'arthrite et certainement des troubles de santé mentale comme la dépression ou le stress post-traumatique.
Et donc, ce serait à peu près dans cet ordre-là, le plus souvent à l'ouïe ou une déficience auditive, ensuite des maladies notamment arthritiques. Il faut dire d'ailleurs qu'un Canadien sur 7 à peu près en est atteint. Et finalement, dans le peloton de tête, les difficultés de santé mentale. Ça serait ça la répartition.
Exactement, oui.
Est-ce que vous avez d'ailleurs des chiffres ou des faits saillants sur ce nombre d'anciens combattants?
sur les gnomes comme tels, je les ai pas en avant de moi.
Non. OK. mais donc, vous vous rappelez quand même de l'ordre de grandeur, là.
C'est ça, c'est l'ordre de grandeur, certainement, comme je l'ai indiqué, oui.
OK, parfait. Dans votre fonction, on voit l'ensemble des activités de recherche du ministère. Est-ce que vous trouvez que la recherche sur les anciens combattants s'est intensifiée dans les dernières années?
Certainement, nous sommes en train de faire une recherche et une analyse très étroite. Ça fait plusieurs années qu'on fait des études sur la vie après le service militaire, mm-hmm. puis c'est des sondages auprès des vétérans après qu'ils se sont libérés, mm-hmm. Que ce soit de la force régulière ou de la réserve. Puis ça nous donne beaucoup d'informations en tant que la population comme telle pour pouvoir mieux gérer les programmes et les services, incluant certainement, comme vous avez indiqué, des programmes qui desservent à la transition et à l'emploi.
OK. Parce que c'est sûr, c'est des moments importants là, quand on revient. Après ça, éventuellement, on souhaite réintégrer peut-être la vie active. Là. Est-ce que, d'ailleurs, on va parler des programmes spécifiques à cet égard, mais est-ce que vous trouvez qu'on est plus sensible à ces étapes-là aujourd'hui dans la population canadienne, par exemple? Est-ce que les gens reçoivent mieux cette... soutient mieux les personnes ou sont mieux informées?
Moi, je dirais certainement que les vétérans comme tels sont certainement une population importante, mais ils ne sont pas nécessairement tout blessés dans le sens que leur capacité, comme n'importe quel autre Canadien canadienne qui ont souffert d'une maladie ou d'une trouble physique, ils ont une capacité énorme pour pouvoir travailler et de donner à un organisme ou un employeur. On sait qu'ils sont reconnus partout dans le monde pour leurs compétences, leurs aptitudes, et il y a une connaissance spécialisée, exemple même un leadership ou un esprit d'équipe qu'ils apprennent à travers les forces canadiennes qu'on ne peut pas mesurer. Et pour un employeur, c'est des atouts importants.
Mm-hmm. Et même au niveau de la logistique, hein, parce qu'en temps de guerre, c'est assez important de savoir bien gérer les détails, la logistique, etc.
Je suis complètement d'accord comme exemple, certainement.
Et donc, peut-être que vous pourriez un peu mieux nous décrire, disons, les obstacles que doivent surmonter ces personnes-là, qui ont pourtant un grand potentiel à offrir.
Oui, certainement. Je veux vous dire qu'une des différences frappantes entre les vétérans et la population en général, c'est qu'on voit que 1 sur 3 travaille avec des limitations d'activité.
Mm-hmm.
Puis ça, c'est un taux qui est 3 fois plus élevé que celui des autres Canadiens.
Ben oui, voilà.
Donc, les vétérans rentrent dans un emploi, ils se retournent, ils sont capables de faire la transition, mais ils sont quand même dans une situation où qu'il y a un défi en tant que capacité de limitation d'activité. Voulant dire qu'il y a juste besoin d'avoir une sensibilité à cet égard de la part des employeurs.
Mm-hmm. Donc, la première chose, c'est ça, que les employeurs soient... sensibiliser, qu'ils soient plus ouverts à intégrer des gens qui ont déjà été dans les forces.
Certainement. Puis avec, comme j'ai dit, les atouts qu'on vient juste de mentionner, c'est très important de les avoir, mais aussi d'être sensible à ces capacités, aussi dépendamment, encore une fois, de leurs limitations d'activité.
Et donc, est-ce qu'il y a d'autres défis à part le fait de sensibiliser les employeurs eux-mêmes?
Oui, certainement. Un autre exemple que je peux donner, M. Rossette, c'est en tant que l'aspect culturel.
Mm-hmm.
Donc, encore une fois, c'est de sensibiliser les employeurs. Puis je peux mentionner certainement tantôt des sites web ou des programmes pour les employeurs comme tels. Mais la culture en dedans des Forces armées canadiennes, c'est une culture très importante, très différente. Le fait même de porter un uniforme.
Oui.
Puis ensuite, de devoir sortir l'uniforme d'un jour au lendemain, puis ensuite d'essayer de se réinsérer dans
dans la société civile.
Dans la société civile, exactement.
Sans uniforme, oui.
Voilà. Sans uniforme, oui. Sans structure ou routine nécessairement qui existe, comme qu'on voit dans les Forces armées canadiennes, exemple, même avec le gouvernement fédéral. C'est un peu différent en tant qu'environnement d'emploi.
Mm-hmm. Donc, Écoutez, vous nous avez bien présenté la situation de ces gens-là. À l'instar de l'honorable Ken Eyre, qui est ministre des Anciens combattants, et aussi de d'autres ministres, il y a des programmes qui ont été déployés récemment, ou encore d'autres qui existaient déjà. C'est quoi ces programmes-là qui vont venir soutenir ces personnes-là à retourner sur le marché du travail ou être intégrées dans la société civile?
Oui, non, certainement. Je vais juste indiquer en premier lieu que nous travaillons de façon conjointe avec les Forces armées canadiennes. Mm-hmm. Puis nous avons développé une stratégie. Une stratégie en tant qu'emploi civil et de transition pour les vétérans.
OK.
Et notre vision, c'est vraiment d'assurer que les vétérans sont bien préparés et confiants qu'ils peuvent accéder à un marché de travail qui les accueille favorablement.
Donc, il faut presque faire ça avant le retour. Il faut travailler en amont, même peut-être avant que les gens quittent les forces, non?
Oh, complètement d'accord. C'est un travail de façon très étroite, collaboration. Aussitôt qu'on sache qu'il y a une membre de la Force armée canadienne qui vont se libérer pour n'importe quelle raison, c'est important que les anciens combattants canadiens iront, travaillent, puis ils sont capables quand même de gérer, je vais dire, le dossier là, de l'individu, puis tout dépendamment de leurs circonstances individuelles pour pouvoir le faire.
OK. Et donc, c'est quoi exactement les programmes qu'on peut leur offrir? Qu'est-ce qu'on leur donne comme aide?
Oh, oui, certainement. Donc, en tant qu'ancien combattant, nous avons quand même plusieurs services comme tels. Mm-hmm. Je vais vous donner quelques exemples. Ça débute avec l'entrevue de transition. Donc, ça, c'est vraiment un processus d'examen préalable, comme j'ai dit, qu'ils quittent les forces ou que le gestionnaire de cas peut travailler avec les vétérans et leurs familles à définir qu'est-ce qu'ils veulent faire pour leur aider à réussir avec la réinsertion à la vie civile.
Ouais.
Un des programmes, c'est le programme service de transition de carrière qu'on offre. Puis c'est une offre d'une aide concrète aux vétérans et aux survivants qui sont certainement admissibles au programme pour faciliter la recherche d'emploi.
Ouais. Donc, vous aidez aussi les proches, les gens qui ont perdu des gens en combat.
Oui, oui, certainement. Okay. Donc, exemple, lors de l'entrevue de transition, même avant, là, ça se peut que les services de santé mentale doivent être faits. Ça se peut aussi que l'individu n'est pas prêt nécessairement immédiatement après leur libération de se réinsérer. Ils ont peut-être besoin d'avoir des suivis, des traitements pour pouvoir mieux gérer leur santé, puis par la suite être de retour sur le marché du travail.
Et donc, s'ils sont en situation de handicap ou si ces personnes présentent des limitations fonctionnelles, il y a aussi des programmes pour eux?
Oui, certainement. Nous avons un programme de réadaptation. Mm-hmm. Et le programme de réadaptation, c'est vraiment visé pour les gens qui se libèrent à cause des raisons médicales, on va dire. Mm-hmm. Puis ce programme-là aide à retrouver, premièrement, comme je dis, la santé dans toute la mesure du possible, en premier lieu, et par la suite, de faciliter avec un gestionnaire de cas, avec un plan de réadaptation, le retour à la réintégration. Puis si ça veut dire certainement retourner aux études ou une appui pour suivre des cours, quoi que ce soit, là, c'est vraiment en dessous de ce programme de services de réadaptation et assistance professionnelle que ça pourrait se faire.
Parlons aussi santé mentale, puisque bon, beaucoup vivent des chocs post-traumatiques, post-opérationnels, qu'on appelle souvent. Le ministre lui-même disait, il y a cet automne, un peu plus tôt cet automne, donc je le cite, il disait « Vivre avec des problèmes de santé mentale peut être très difficile, non seulement pour ceux qui y sont confrontés, mais également pour leurs proches. Ce projet de soutien et de formation axé sur les compétences apportera des changements positifs dans la vie des participants. » Il parlait d'un programme en particulier qui s'adressait aux personnes qui avaient des problèmes de santé mentale survenus après les forces. Quel est ce programme-là?
Oui, il parle d'un programme par la Société pour les troubles de l'humeur du Canada, qui ont récemment reçu un financement à travers un fonds d'intégration pour les personnes handicapées d'Emploi et Développement social Canada.
OK. Donc, c'est le fonds, ça partit du fonds d'intégration là, qui existait pour les personnes handicapées.
C'est certain, oui.
Okay.
Puis le programme débute, là, mais c'est certain que ça va offrir des services d'aide à l'emploi aux vétérans, qu'est-ce qu'on appelle, ils ont appelé vulnérables, donc ils ont des problèmes de santé mentale comme la dépression. Et ils sont en train de regarder au programme sur une période de 3 ans à Calgary, à Montréal et à Toronto.
OK. Donc, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour ce programme. Donc, est-ce qu'il y a une adresse où on doit se rendre, qu'on doit visiter pour l'information sur tous ces programmes, Mme McIntyre?
Bien, c'est certainement le site Web des Anciens Combattants Canada va vous donner une indication en général. J'aimerais aussi, plus particulièrement pour les employeurs, parce que c'est vraiment, comme j'ai dit, je trouve que c'est un bassin d'employés qui n'est pas nécessairement connu. Mm-hmm. Il y a le site Web de metforce.ca.
OK, donc MetForce, est-ce qu'il est disponible en français aussi, j'imagine?
Oui, il est disponible en français. Oui, il y a une site en français, mais c'est un programme d'aide à la transition qu'on travaille de proche avec une compagnie privée avoir, comme j'ai dit, vraiment pour aider les employeurs à plusieurs domaines.
Donc, on visite soit le site des anciens combattants, Anciens Combattants Canada ou encore metforce.ca. Merci beaucoup, Mme McIntyre.
Parfait. Puis aussi, je pense que c'est important à noter que c'est la semaine des vétérans.
Ah, bon, bien, écoutez, c'est important. Merci de le rappeler. Alors, rappelons d'ailleurs que Mme McIntyre est directrice générale de la division de la politique et de la recherche au ministère des Anciens Combattants. On se souvient.
Merci beaucoup, M. Rossette.
Dans le cadre des paractualités, j'ai une rubrique tous les jours entre 11h30 et midi qui est consacrée aux nouvelles pan-canadiennes, aux nouvelles qui intéressent absolument tout le territoire d'Est en Ouest. Et je me souviens très, très bien, c'était avant-hier, c'était mercredi, vous avoir lu cette nouvelle au sujet d'un nouveau symbole d'accessibilité. Par actualité, oui, pardon, internationale et nationale, vers un nouveau symbole international d'accessibilité. Il s'appelle Brian Gleeny, c'est un artiste de graffiti, il est professeur de philosophie à l'Université Norwich dans le Vermont, et il propose une nouvelle conception de l'image, vous savez, cette image qui est utilisée aux quatre coins du monde, de cette personne qui est en chaise roulante avec un dos bien droit. Et lui, il voudrait un petit peu déstabiliser les gens, les forcer à remettre en question les préjugés et idées reçues à propos des capacités des personnes handicapées. Alors, le nouveau pictogramme représente une personne assise, OK, en fauteuil roulant, mais penchée vers l'avant et un bras levé derrière elle comme si elle se propulsait, vous savez, un petit peu comme les sportifs finalement. Un symbole actuel montre plutôt une personne se tenant droite dans son fauteuil. Donc là, il y a un petit côté, c'est vrai, immobiliste. D'ailleurs, j'ai encore à côté de moi Marie-Claude Lépine. Marie-Claude, je suis sûre que vous faites partie des gens que ça va réjouir, ça.
Mais effectivement, parce qu'on est, c'est pas parce qu'on est assis qu'on est immobile,
exactement.
On est en action.
Hein. Exactement. Alors, c'est pour ça que je suis contente que vous soyez là pour réagir. Après avoir passé des années à superposer ses propres autocollants sur l'ancien symbole dans des endroits publics, deux États américains ont fini par le faire sien. L'État de New York et le Connecticut l'ont adopté pleinement. Non seulement ils ont adopté le pictogramme, mais aussi ils ont changé le libellé de « Handicapped Space », donc réservé aux personnes handicapées, à « réservé tout court ». Ou bien à Access Space, espace d'accès facile, raconte M. Gleeny. Jusqu'à présent, la ville de Nanaimo, en Colombie-Britannique, est la seule cité canadienne à avoir converti ses pancartes au nouveau pictogramme. Mais le professeur fait remarquer que d'autres communautés ont déjà présenté des pétitions à leur gouvernement en faisant pression pour adopter le nouveau symbole. Les ministres provinciaux et le ministre fédéral de la Santé ont déjà reçu une lettre dont je vais vous lire de larges extraits, une lettre qui émane de Louise Bradley, présidente directrice générale de la Commission de la santé mentale du Canada, Dr Catherine Zahn, présidente et chef de la direction du Centre de toxicomanie et de la santé mentale, le Dr Patrick Smith, président et chef de la direction nationale de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et ces trois personnes-là écrivent ceci: « Madame et messieurs les ministres de la Santé, au Canada, une crise de santé mentale se dessine à l'horizon. Tandis que la stigmatisation s'atténue, Les gens demandent de l'aide, mais le système surchargé et sous-financé ne parvient pas à répondre à la demande croissante. Cette année, une personne sur cinq, soit 6,7 millions de Canadiens, connaîtra un problème de santé mentale. Bon nombre demanderont à recevoir un traitement et ne tarderont pas à découvrir les listes d'attente qui s'allongent. Certaines personnes ne recevront aucun soutien tant qu'elles ne se retrouveront pas aux urgences, dans des refuges ou malheureusement dans le système de justice. Comme si cela n'était déjà pas assez troublant, le suicide est la principale cause de décès chez les jeunes. Des milliards de dollars qui sont consacrés aux soins de santé au Canada, environ 7% sont affectés à la santé mentale. À titre de comparaison, les services de santé nationaux du Royaume-Uni consacrent plus de 13% à la santé mentale. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, l'investissement relativement petit du Canada le place en queue de peloton des pays développés. C'est pourquoi les organisations de santé mentale de premier plan au Canada demandent aux provinces, aux territoires et au gouvernement fédéral de collaborer afin de refondre un système défectueux. Nous savons comment améliorer les résultats sur le plan social et économique. Nous devons investir dans la prévention, l'accès aux interventions précoces, les psychothérapies, la santé mentale communautaire collaborative et la cybersanté mentale. Sans l'apport de nouveaux dollars, l'aide pour les maladies mentales demeurera un privilège complètement hors de portée de certaines des populations les plus vulnérables. Il est grand temps de retirer le Canada de la liste d'attente. Le vérificateur général de l'Alberta tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne le AISH, ou Revenu garanti pour les personnes sévèrement handicapées, destiné aux personnes souffrantes d'un lourd handicap. Et apparemment, pour ce monsieur, Merwan Saher, il explique que c'est immensément compliqué, beaucoup trop compliqué. Ce programme AISH permet d'aider financièrement des personnes sévèrement handicapées dans la province. Chaque année, il distribue environ 1 milliard de dollars à plus de 50 000 Albertains. Merwan Saher s'est penché sur son fonctionnement entre février et août 2016. Lundi, il a rendu un rapport mettant en exergue les lacunes de ce programme. Le principal défaut provient, selon lui, de la lenteur dans l'évaluation de l'admissibilité. Merwan Saher a également constaté des incohérences dans la façon dont les règles sont appliquées. Par exemple, les demandeurs qui travaillent 30 heures par semaine se voient refuser l'accès au programme. Pourtant, les gens qui reçoivent déjà AISH ont été autorisés à travailler le même nombre d'heures. De son côté, le ministre des Services sociaux, Irfan Sabir, a déclaré qu'il donnerait suite aux recommandations du rapport. Restez des nôtres dans quelques minutes, la seconde partie de l'émission Le National, qui vous est présentée sur les ondes de Canal M par Clotilde Seille en ce 11 novembre. National, deuxième partie et d'autres sujets que nous avons choisis pour vous. Alors, le saviez-vous? 500 000 Canadiens sont atteints de rétinopathie diabétique, la cause principale de cécité chez la population active. Mais il y a une nouvelle découverte qui donne un espoir afin de prévenir cette maladie. Et dans le cadre de l'émission « C'est bon pour la santé » présentée le mercredi à midi en reprise à 17h, eh bien, Marianne Paquette s'est entretenue avec Frédéric-Antoine Mallette et Mike Sapieha, qui sont tous deux chercheurs en oncologie moléculaire et qui vont nous parler de cet espoir énorme que pourraient bien avoir ces 500 000 Canadiens.
On parle, et ce, pour le moment, de rétinopathie diabétique, qui est la complication la plus fréquente du diabète, la cause principale aussi de cécité dans la population active. Et j'ai été assez surprise de lire qu'un demi-million de Canadiens vivent, sont atteints de rétinopathie diabétique. Et ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que l'on prévoit que l'incidence de cette maladie-là va doubler dans les 15 prochaines années. Bien, ça suit un petit peu le diabète, hein, qui est une maladie chronique très, très présente présente un petit peu partout dans le monde. On parle aujourd'hui de recherches récentes qui pourraient nous aider à mieux comprendre la maladie, à mieux la prévenir également, avec deux chercheurs issus de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Frédéric-Antoine Mallette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en oncologie moléculaire et Mike Safia, chercheur en ophtalmologie. Bonjour, Mike.
Bonjour.
Donc, tout d'abord, j'ai envie de mettre au clair cette alliance entre l'oncologie moléculaire et l'ophtalmologie. Qu'est-ce qui explique cette alliance-là?
En fait, moi, j'ai eu la chance d'assister à une excellente présentation là, du Dr Safia à mon recrutement, justement, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y a environ 4 ans de cela. Mm-hmm. Et puis, en fait, j'ai été très excité par ces modèles d'études qu'il nous a présentés sur la rétinopathie diabétique. Et j'ai vu tout de suite certaines liaisons mm-hmm. possibles avec mon propre programme de recherche sur le vieillissement cellulaire. Donc, on s'est posé plusieurs questions, justement, à savoir quels étaient les défauts cellulaires là, qui peuvent survenir dans ce type de maladie-là.
Oui, c'est une façon d'allier les forces et les connaissances aussi, Frédéric-Antoine, pour aller un peu plus loin dans la recherche.
Tout à fait. Utiliser deux expertises totalement différentes, mais complémentaires dans ce cas-ci, pour découvrir, mettre à jour les mécanismes, les causes moléculaires de cette maladie-là.
Oui. Mike, bien sûr, vous êtes le chercheur en ophtalmologie, donc peut-être le mieux placé pour nous expliquer tout d'abord qu'est-ce que la rétinopathie diabétique.
Oui, donc la rétinopathie diabétique, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, c'est une maladie à très forte prévalence au Canada et dans tous les pays développés essentiellement et de plus en plus maintenant dans les pays en voie de développement où on voit vraiment des... En termes de nombre absolu, c'est vraiment l'Inde et la Chine qui vont avoir le plus grand nombre de personnes atteintes de ces complications liées au diabète. Donc, essentiellement, c'est une des complications les plus prévalentes chez les personnes atteintes de diabète, donc mm-hmm. Soit de diabète de type 1 ou de type 2. Et ça se manifeste souvent après une vingtaine d'années, entre 10 et 20 années de diabète, à partir du diagnostic du diabète. Ce qui se passe, c'est les vaisseaux sanguins dans l'œil commencent à initialement relâcher un peu leur contenu. Donc, on a un gonflement de la rétine qui est cette... membrane de cellules nerveuses en arrière de l'œil qui est responsable à transformer les images que nous voyons en impulses nerveux et transmettre ces signaux nerveux jusqu'au cerveau pour qu'on puisse avoir une image. Donc, ce qui arrive dans la rétinopathie diabétique, c'est en premier lieu les vaisseaux sanguins qui viennent alimenter les cellules nerveuses de l'œil, mm-hmm. Dégénèrent. Et dans une deuxième phase, qui est plutôt celle qu'on a étudiée avec Dr Mallette, il y a une phase de croissance vasculaire pathologique, donc c'est-à-dire okay. maladive, qui va carrément venir détruire certaines parties de la rétine ou de l'arrière de l'œil.
Mais qu'est-ce qui fait, Mike ou Frédéric-Antoine, peut-être plus Mike, que le diabète atteint les cellules de cette façon-là, que cette maladie a tant d'incidence sur les cellules de nos yeux?
Okay, c'est une très bonne question. Donc, essentiellement, la rétine, par poids, c'est le tissu le plus métaboliquement actif du corps. C'est-à-dire, c'est lui qui a besoin le plus de sucre ou le plus de gras pour fonctionner. Mm-hmm. Donc, quand on a une maladie comme le diabète, qui essentiellement est une maladie qui affecte tout le corps, les tissus ou les organes qui ont la plus grande nécessité énergétique vont être les premiers qui sont affectés. Et vu la structure de la rétine ou de l'œil, qui est très délicate, donc la rétine, c'est une fine couche de cellules nerveuses qui est irriguée de façon très organisée par des petits vaisseaux sanguins. Quand on commence à perdre ces petits vaisseaux sanguins, on a cette manifestation de rétinopathie.
OK. Et est-ce que l'on perd la vue de façon soudaine ou ça se passe, avec le temps, ça dépérit avec le temps, la vue?
D'habitude, ça dépérit avec le temps et c'est vraiment une fonction de votre diabète systémique.
Okay.
Donc, c'est une fonction. Si vous arrivez à bien contrôler votre diabète, les chances de développer une rétinopathie sont ralenties de façon significative.
Mm-hmm. Ce que ça vous a permis de voir, Frédéric, Antoine et Mike, c'est que les cellules, oui, vieillissent davantage, sont davantage atteintes, mais elles ne meurent pas complètement, c'est bien ça?
Exactement. Donc, elles répondent à la dégénérescence vasculaire, donc à la réduction d'apport métabolique en induisant ce qu'on appelle la sénescence cellulaire, qui est en fait un vieillissement cellulaire prématuré où la cellule demeure vivante, elle est quand même active. Puis ça va causer aussi beaucoup de sécrétion de différents facteurs, plusieurs que ça va mener à une réponse inflammatoire aussi dans l'œil.
Mm-hmm. Et vos recherches, messieurs, ça vous a amené à quel genre de constat?
En fait, ce qu'on a observé, c'est que si on limitait justement la sécrétion de molécules pro-inflammatoires dans l'œil, en utilisant différentes drogues, donc des drogues qui sont présentement sur le marché, ou en ciblant certaines voies moléculaires bien précises qu'on a pu identifier,
mm-hmm.
Donc on peut limiter la sécrétion de certaines molécules par les cellules vieillissantes de l'œil et permettre une revascularisation saine. De la rétine.
Mais ces médicaments-là n'existent pas encore ou ils existent?
En fait, ils existent, mais ils ne sont pas utilisés. Dans le fond, les voies de livraison des médicaments ne ciblent pas en ce moment de façon efficace. Moi, c'est ce qu'on voit, là.
Mm-hmm.
L'œil et le tissu rétinien. Donc, ce qu'on espère un jour pouvoir développer, justement, c'est des modes de livraison plus efficaces.
Oui.
De ces drogues.
C'est votre objectif.
Tout à fait.
Ouais.
Puis en fait, on a aussi on a fait des découvertes pour trouver tous les éléments en amont de ce vieillissement.
Mm-hmm.
Donc, on est en ce moment activement en train de développer des nouvelles formes de traitement pour justement halter ce programme de vieillissement prématuré.
Oui. Vous avez travaillé avec des souris aussi?
Oui, majoritairement. Majoritairement des souris, mais également des tissus humains, des vitrées humains pour confirmer nos découvertes dans la maladie humaine.
Qu'est-ce que ça pourrait changer à moyen long terme sur l'incidence de cette maladie? Parce que on n'arrivera jamais à la guérir complètement, j'imagine, à mieux la prévenir, à la ralentir?
Oui, probablement, un peu de tous les trois que vous venez de mentionner. Donc, comme on a dit au début, la rétinopathie diabétique, c'est vraiment une manifestation de la maladie du diabète. Donc,
oui.
La meilleure façon de prévenir cette maladie, c'est de bien contrôler son diabète.
Oui.
Par contre, si on a ces séquelles secondaires au diabète, il y a présentement certains traitements qu'on peut déjà utiliser dans les yeux qui vont justement halter la progression de la maladie, mais ils sont très peu efficaces chez certains patients. Donc, quand on pense du médicament le plus utilisé maintenant pour halter la progression, on a une réponse de seulement environ 60% des patients. Donc, il y a tout un 40% des patients qui reçoivent certaines de ces nouvelles injections
mm-hmm.
qui ne répondent pas. Donc, on a de plus en plus d'évidence que les voies que Dr. Mallette et moi ont mis en évidence pourraient justement pallier à ce 40% qui répond de façon inefficace à ces nouveaux traitements.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des tests éventuellement sur des personnes qui vivent avec la maladie?
Oui, absolument. Donc, on est en train de développer ces nouvelles thérapeutiques. Et on pense que d'ici 18 à 26 mois, on devrait avoir les premiers patients qui recevraient les injections avec nos nouvelles molécule.
Mm-hmm. Et dans votre cas, Frédéric-Antoine, parce qu'on comprend très bien ce que ces recherches vont amener pour des personnes qui vivent avec la rétinopathie diabétique et tous les progrès que ça pourra amener, est-ce que vous voyez des résultats dans votre champ de recherche précis en oncologie aussi? Est-ce que ça amène des ouvertures?
Moi, tout à fait. En fait, comme les rétinopathies sont en fait des maladies vasculaires, des défauts des vaisseaux sanguins, donc on pourrait envisager en fait que justement les mécanismes qu'on a identifiés, là, causés par les cellules vieillissantes, pourraient altérer la formation de nouveaux vaisseaux et pourraient peut-être éventuellement aussi s'appliquer au développement de vaisseaux, dans le fond, pour durant la tumorigenèse, la formation de tumeurs, peut-être aussi la formation de métastases. Donc, comment est-ce que les tumeurs vont développer de nouveaux vaisseaux sanguins pour se diriger vers d'autres tissus? Oui, tout à fait, dans le domaine de l'oncologie moléculaire aussi, il y a un fort impact de notre découverte.
Ouais, comme quoi l'union fait la force. Mais bien sûr, la conclusion, c'est que en arrivant à prévenir la maladie qu'est le diabète, on arriverait aussi à prévenir par la bande, la rétinopathie diabétique. C'est ce que l'on souhaiterait, bien sûr. Hein?
Oui, absolument. Puis surtout dans le cas des diabètes de type 2, ouais. Qui est plutôt une maladie qui est due à un mode de vie.
Ouais.
Là-dessus, on a vraiment beaucoup plus de contrôle de façon précoce. Donc, on peut commencer à avoir des signes avant-gardeurs de la maladie et carrément changer son mode de vie et donc prévenir la maladie ou en tout cas ralentir le développement de la maladie.
Ouais.
Dans le cas du type 1, qui est une maladie plus auto-immune, donc on a moins de contrôle sur son développement. Mais on peut quand même bien respecter les traitements et donc ralentir la progression des complications.
Oui. Mike Sapia, vous êtes chercheur en ophtalmologie. Frédéric-Antoine Mallette, chercheur en oncologie moléculaire, tous deux du côté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemonde. Merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Intéressant, n'est-ce pas? Quand on pense au nombre de gens qui peuvent être atteints de rétinopathie diabétique, alors merci à Marianne Paquette qui, chaque semaine, dans le cadre de cette émission « C'est bon pour la santé », nous éclaire sur tous ces sujets qui peuvent nous sembler parfois un peu arides et surtout des sujets qui parfois sont désespérément sans espoir. Merci beaucoup, Marianne. Marianne Paquette encore, mais cette fois-ci à l'émission Portrait de famille. C'était le 31 octobre dernier. Marianne recevait Cybèle Forget, la maman de Tao, 5 ans, et Délie, 2 ans et demi. Tous deux vivent avec la paralysie cérébrale et tous deux sont sourds-aveugles. Alors, pour tout savoir et pour mieux comprendre ce qu'est la surdicécité et ce qu'est le quotidien de cette famille-là, eh bien, Marianne Paquette s'est entretenue avec Joanne Thibaudeau, une ergothérapeute retraitée de l'Institut Nazareth et Louis Braille.
Bonjour, Joanne.
Bonjour.
Approchez-vous un petit peu de votre micro, soyez pas timide. Joanne Thibaudeau, ergothérapeute retraitée de l'Institut Nazareth et Louis Braille, co-auteur de ce guide d'une cinquantaine de pages très outillant, Vivre au quotidien avec un enfant sourd, aveugle. Je le disais tout à l'heure, Joanne, une condition qui peut être rare, qui demeure méconnue, la surdicécité. Et en même temps, je pense que ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui, ce qui est important, c'est que quand il y a des thérapies, des approches adaptées, ces enfants-là ont la chance de se développer. C'est possible aussi.
Oui, ça, je pense que c'est quelque chose de très important à partager aux parents parce que, comme Cybèle nous disait, quand on a tous ces diagnostics, on frappe le mur, on s'imagine qu'il n'y a plus rien à faire. Mais tous ces enfants-là ont un potentiel. Il s'agit vraiment de mettre les structures, de mettre une façon de travailler avec eux pour les aider à entrer en contact avec leur environnement et leur donner la chance de pouvoir réagir. Oui. Parce que quand tu n'entends pas bien, que tu ne vois pas bien, que tu n'as pas ta mobilité motrice pour faire des choses, comment tu peux être capable de réagir adéquatement à une stimulation? Ça laisse tout le temps supposer que l'enfant, il ne comprend pas, qu'il ne peut rien faire, mais c'est parce qu'on ne lui donne pas la chance de pouvoir interagir avec son environnement.
Et qu'il ne peut pas communiquer. On va penser à ça souvent. Or, c'est faux. Comment l'enfant qui vit avec une surdicécité peut communiquer, interagir avec son entourage?
C'est un gros défi, la communication, mais je pense qu'il faut comprendre que même si on ne parle pas, on communique.
Ouais.
Il y a tout le non-verbal, il y a la façon de bouger, dans le regard ou dans le pas-regard, je veux dire, on communique toujours. Mais quand tu es en surdicécité puis que tu as un problème aussi moteur, bien, ça prend une approche spéciale. Parce que toute communication, toute interaction avec l'extérieur, c'est souvent perçu pour l'enfant comme étant une agression.
Mm-hmm.
Cybèle le disait tout à l'heure, très bien, c'est des enfants qui ont été hospitalisés, qui ont eu test par-dessus test. Alors, imaginez juste, t'es enfant, tu vois pas bien, t'entends pas bien, tu peux pas bouger, on arrive, on te fait une piqûre, on te dit pas, là, t'as pas le temps d'être averti de cette situation-là.
Juste de changer de place, juste d'un lieu à l'autre.
Recevoir un biberon, quelqu'un qui te met un biberon dans la bouche quand tu ne l'as pas vu venir, c'est très agressant.
Prendre le bain, se faire plonger dans l'eau.
Dans l'eau, oui. T'as pas eu de... Donc, il y a des phases là, à respecter. On les écrit très bien dans le livre. Mais bon, on peut les passer rapidement. Là.
Mais il y a les phases, et ça, c'est important. Il faut être patient, Cybèle, lorsqu'on est parent d'enfants qui vivent avec une surdicécité, pour passer à travers ces phases-là.
Oui, très patient et persistant parce qu'on ne voit pas les résultats tout de suite. Ça prend beaucoup de temps. On parlait du bain.
Oui.
Tao, c'était quelque chose de complètement atroce pour lui. Il hurlait la majorité du temps. On ne comprenait pas pourquoi de temps en temps c'était le fun, de temps en temps c'était pas le fun. Et puis avec les conseils de l'équipe de surdicécité, on est arrivé à lui faire anticiper qu'il s'en va dans le bain. Puis maintenant, Tao chante sous la douche. Il est très heureux. Alors, ça apporte vraiment une grande amélioration du quotidien. Là,
du bien-être de toute la famille. Vous avez dit quelque chose d'assez important, je trouve, Joanne. C'est qu'il ne voit pas bien, il n'entend pas bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne voit rien et qu'il n'entend pas rien, cet enfant.
C'est très rare, un enfant surdicécité, là, que c'est complet. Souvent, les gens s'imaginent ça par le mot, mais non, ils ont tout le temps un résidu. Donc, c'est important. Évidemment, il peut avoir des appareils auditifs comme souvent, les gens vont dire, ben, elle a des appareils auditifs, elle entend bien. Non, ça ne redonne pas, ça donne pas un 100% d'audition. Mais on peut les équiper, ces enfants-là, avec des prothèses auditives, avec des lunettes qui vont corriger. Une partie, ça ne donne pas une vision parfaite, mais au moins, ça les met en contact dans l'environnement. Parce que quand t'as pas l'information, tu ne peux pas être en contact avec ton environnement.
Oui. Vous avez parlé des phases, il y en a plusieurs. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de toutes les aborder. Est-ce qu'il y en a une qui peut être plus importante ou peut-être plus fondatrice dans les premières approches d'un parent qui reçoit un diagnostic comme ça?
Bien, je pense qu'il faut que... Vous voulez parler des phases de parents ou l'approche plus de l'enfant parce que là...
Mais par exemple, je pense à quelque chose qui semblait assez important, c'est l'anticipation.
Oui, d'accord. Oui. OK. Bien, je pense que oui, dans l'anticipation, c'est le premier enjeu. N'importe qui, si quelqu'un vous arrive dans le dos puis qui vous fait sursauter, tout le monde a vécu ça, oui. On est même plus apte, on est comme fâché, hein? On sent qu'on a été agressé. Oui. Mais imaginez, ces enfants-là sont tout le temps dans cette situation-là. Donc, ça, c'est une chose. Il faut qu'ils anticipent. Il faut leur signaler qu'on veut... Il faut les avertir qu'on va entrer dans leur environnement.
Oui.
Donc, pour anticiper, il faut faire soit un bruit, soit utiliser une lampe de poche pour montrer qu'on est là, pour le mettre en éveil, puis de dire, « Ah, il va se passer quelque chose. » On ne touche pas tout de suite à l'enfant parce que... Ça aussi, c'est une agression. Oui. À moins qu'on nous connaisse, une maman peut le faire parce que souvent... Puis là, on s'identifie à l'enfant en utilisant une identification qui sera propre à la nôtre. Si on prend juste l'exemple de maman Cybèle, elle touchait les pieds de l'enfant, puis elle disait « c'est maman ». Donc, moi, j'avais aussi à trouver, ou toute personne, que ce soit grand-papa, grand-maman ou n'importe qui, pour que l'enfant dise « Ah, bon, ben là, c'est elle qui va intervenir.
»
Et là, après ça, on utilise souvent l'objet parce que l'enfant est à un niveau concret. Si je veux jouer avec lui, ben je vais utiliser l'objet. Ou si je veux changer sa couche, je vais lui montrer la couche. Si
pour le bain, il y a la débarbouillette qui peut aider.
Oui. Absolument. Alors là, l'enfant va faire comme... Il ne pourra pas, dans un premier temps, savoir tout ça, mais il va finir par comprendre que lorsque je lui présente, comme Cybèle tout à l'heure, mon bébé, il aimait pas prendre le bain. Mais là, en lui mettant la débarbouillette ou faire sentir l'odeur ou faire écouter l'eau du bain, bien, l'enfant, il sait que là, maintenant, c'est ça puis qu'il va avoir du plaisir.
Oui, oui. Et que ça va bien se passer, qu'il est en sécurité. Cette notion-là doit être extrêmement importante.
C'est toute la notion qui fait que tu vas créer un lien d'attachement.
Oui.
Parce que il faut que l'enfant se sente dans un contexte de sécurité pour évoluer, sinon c'est la clé.
Tellement de choses, il reste une minute et demie qui aurait été vraiment intéressant d'aborder. Vous avez parlé de jouets. Est-ce que Tao et Dali ont des jouets préférés, Cybèle? Ça fonctionne bien avec eux, ils ont du plaisir et une interaction qui est possible.
Oui, mais ça, c'est vraiment difficile à trouver. Puis d'emblée, quand on rentre au Toys R Us, on ressort en pleurant puis on se dit si ça n'existe pas. Mais il y a des petites choses qui, des fois, sont même pas un jouet à la base. Mais en ce moment, ce que Dali aime vraiment beaucoup, là, ça a comme un manche, ça a un bouton. Quand on pèse dessus, ça roule, c'est lumineux, ça vibre. Mm. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est le mettre dans sa bouche, puis ça vibre. Alors maintenant, je regarde toutes les choses en fonction de ça. Est-ce que c'est en plastique dur, puis ça fibre? Oui, ma fille va l'aimer.
Oui, parce que de stimuler les autres sens, c'est important, Joanne?
C'est très important. Puis aussi, il faut que ces enfants-là s'amusent. Ils doivent avoir du plaisir. C'est la base, c'est là qu'on apprend.
Trouver la porte d'entrée.
Trouver la porte d'entrée, voilà. Puis, il faut fabriquer des jouets. Il faut fabriquer comme le livre. Tous les mamans aiment lire une histoire à leur enfant. Donc, on a fabriqué des livres à partir des intérêts du parent. Parce que le parent, il y en a plein de bonnes idées. Il a juste besoin qu'on l'aide.
Et qu'on les valide aussi.
Qu'on les valide et qu'on les concrétise. pour que ce soit accessible à leur enfant.
Ouais, souvent, le jouet non plus, il ne s'achète pas, il s'invente. Il faut garder notre cœur d'enfant. Je me rappelle les premières interventions avec Tao. Il hurlait toute l'intervention jusqu'à temps qu'on découvre qu'il aimait ça, se faire bardasser dans une couverture.
Oui.
Alors, on chantait les poissons gigotes en bardassant la couverte. Puis Tao aimait ça, puis on a essayé tant bien que mal de lui faire dire encore avec ça. Mais au moins, il pleurait pas, puis c'est pas vraiment un jouet.
Parce que, et ça, je pense que c'est pour tous les enfants, le plaisir, le jeu libre est fondateur de beaucoup d'apprentissage. Joanne Thibodeau, c'est déjà la fin, mais on va guider les gens vers ce guide qui est fort bien fait, Vivre au quotidien avec un enfant sourd, aveugle. On le retrouve du côté de l'Institut Raymond Dehoir et de l'Institut Nazareth et Louis Braille, où vous avez travaillé pendant des années et où j'espère vous. Ben, en fait, j'ai envie de le souligner, vous continuez à vivre là, au sein de ces familles-là et d'avoir un grand effet. Merci beaucoup.
Bienvenue.
Voilà, c'est ainsi que s'achève l'émission Le National. Nous espérons que vous avez pris plaisir à réécouter tous ces segments d'émissions qui font partie intégrante de la programmation de Canal M, une programmation dont nous sommes fiers, une programmation qui est faite pour vous. Alors parlez-en à vos amis. C'est important. Merci à Marianne Paquette, merci à Benoît Rassette, merci également à Louise Vien, Mathieu Tessier et mon ami Jean-Sébastien Laliberté qui ont participé à la réalisation de cette émission aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. C'était Clotilde Seille. Salut!